J'ai compté 3 porcs par personne.
3 porcs ?
Pourquoi on n'a pas de tracteur ?
Tu veux te lancer dans l'agriculture maintenant ?
Le légume. Parce que vous avez dit gratin.
T'enfiler les OGM, les pesticides, les prions et compagnie, mais vas-y.
Je vois pas le rapport avec la Bretagne.
La Bretagne est la première région agricole de France. 12% de la production brute standard nationale est bretonne et plus de la moitié du territoire est consacrée à l'agriculture. La région est également première pour la production animale. Mais le modèle intensif actuel mis en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale pose question. Algues vertes, nitrates, sols morts et rivières polluées sont autant de conséquences directes d'un secteur qui épuise les sols et les femmes et les hommes qui les travaillent.
Dans l'épisode précédent, nous avons fait un état des lieux du modèle intensif en Bretagne. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux conséquences écologiques et environnementales de cette agriculture. Pauline Penhauber est animatrice et chargée de mission sur les questions politiques de l'eau à l'association Eau et Rivières de Bretagne.
Les liens entre agriculture intensive et pollution, aujourd'hui, ils sont plutôt bien connus. Un très bon exemple, c'est la question des nitrates en Bretagne, où on sait qu'on a des excès de nitrate. On a en moyenne encore aujourd'hui 38 mg de nitrate par litre dans les cours d'eau, sachant qu'on sait que c'est en excès dès qu'on est au-dessus de 20 mg. Et normalement, les teneurs naturelles qu'on sait de nitrate, c'est autour de 10 mg. Donc on est encore dans des excès importants de nitrate, et ces nitrates sont pour origine à plus de 90% d'origine agricole. Sachant qu'en Bretagne, aujourd'hui, on a 58% du cheptel français de bétail, donc ovins, vaches, cochons, qui est concentré sur 6% du territoire. Donc on voit qu'on a vraiment un système vraiment intensif sur un tout petit territoire, et où on voit après les conséquences sur le milieu naturel avec des excès de nitrates, des excès de pesticides, des dégradations du bocage, des zones humides.
Et en quoi vous gêne-t-elle cette pollution, monsieur Pilu ?
Eh bien, elle me gêne du fait que je désirais installer ici plusieurs bacs, 7 ou 8 bacs, pour élever des truites. Maintenant, c'est impossible du fait que l'eau est polluée depuis à peu près 500 mètres par l'existence d'une porcherie industrielle.
Alors, le nitrate, c'est notamment très lié soit aux engrais qu'on dépose sur les sols pour fertiliser les terres, soit aux effluents d'élevage, donc le caca des vaches et des cochons et des volailles, hein, tout simplement. Comme je vous disais, on a 58% du cheptel qui est sur 6% du territoire. Ça fait beaucoup, beaucoup de caca à mettre sur très, très peu d'endroits. Dès qu'on dépasse 20 mg de nitrate par litre d'eau dans l'eau, c'est un excès de nitrate pour les consommations d'eau potable. C'est-à-dire qu'on a trop de nitrate quand on consomme de l'eau potable à de nombreux endroits en Bretagne, même si c'est des concentrations légales. La concentration légale, c'est autour de 50 mg par litre. Et sur les milieux naturels, ça va être des dégradations des milieux aquatiques. L'effet le plus connu, c'est les marées vertes. Les marées vertes, on sait que quand elles se décomposent sur les plages, décomposent des gaz extrêmement toxiques qui peuvent être mortels pour l'homme, mais aussi pour les animaux.
Les agriculteurs se sont mis à utiliser des engrais artificiels pour enrichir les sols en sels minéraux, ce qui a permis d'accélérer la croissance des plantes. Et puis, pour protéger leur culture, les agriculteurs se sont également mis à utiliser des pesticides. Des herbicides d'abord, pour éliminer les mauvaises herbes qui entrent en concurrence avec leur culture. Des insecticides pour lutter contre les insectes qui peuvent parfois ravager les cultures. Et enfin, des fongicides pour éviter le développement des champignons qui peuvent provoquer des maladies.
Alors, les pesticides, c'est assez compliqué parce qu'en fait, aujourd'hui, les pesticides, on les connaît très mal. Ce qu'on mesure dans les pesticides, c'est juste ce qu'on appelle la matière active. Ce qu'on appelle, par exemple, le pesticide le plus connu, c'est le glyphosate. Donc on mesure le glyphosate, et ça, on a des études environnementales qui ont été faites sur l'impact du glyphosate sur la santé. Mais par contre, ce qu'on met dans les champs, c'est pas le glyphosate, c'est le Roundup. Et le Roundup, il y a plein d'autres adjuvants qu'on met, plein d'autres produits toxiques. Et on mesure pas ces produits toxiques. Après, on mesure pas non plus la toxicité des pesticides ensemble. On ne mesure pas non plus, dans le temps, quand le pesticide se dégrase avec le temps, on mesure pas la toxicité des nouvelles molécules de dégradation. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a des pesticides qui sont dangereux, mais il y a tout un pan de connaissance de la toxicité de ces produits-là qu'on ne connaît pas. On sait, souvent on parle, par exemple, dans tous les produits toxiques, des malformations des animaux, mais on ne sait pas vraiment la réelle toxicité de ces produits-là. On a vraiment une vision aujourd'hui très très partielle de l'impact sur les milieux aquatiques de ces produits-là. Par contre, ce qu'on sait déjà, c'est que quand on regarde, on voit qu'aujourd'hui il y a des concentrations extrêmement fortes de pesticides. On retrouve des pesticides dans 100% de nos cours d'eau aujourd'hui. C'est entre 99 et 100% suivant les années, donc on peut dire que vraiment, ils sont partout.
de litres à l'hectare, par exemple, de, nous, de
on
produits.
Mettait, on mettait 5 litres d'atrazine avec 5 litres d'herbogile. Donc,
bon, il ça, nous disait qu'il fallait que ça
directement.
Pour que ça marche. Et puis finalement, c'est sûr que la terre, il n'y avait rien.
Le maïs qui était propre comme la terre.
Ah, il y avait le maïs, il n'y avait pas un petit bourrier à côté. Hein. Ah, il n'y avait rien, rien.
Bon, on en mettait trop. Parce qu'avec 1 litre d'atrazine et 2 litres d'herbogile, c'était très bien aussi.
Par rapport à nos parents, eux, ils ne mettaient rien. Il mettait un peu d'engrais, s'il avait les moyens, il achetait de l'engrais, mais sinon, il n'y avait pas de traitement à ce moment-là.
Entre ne pas en mettre et en mettre tout plein comme on en mettait,
peu,
il y a une marge.
Quand le technicien passait, du coup, c'est lui qui vous recommandait de mettre tant.
Ah oui. Oui.
Sur le produit, sur la bouteille, par exemple, il n'y avait pas une
ah si, c'était, c'était, si, si, c'était écrit.
C'était le même que donnait le technicien.
Ah ben bah, oui, c'était écrit, donc c'est pour ça que on croyait forcément, puisqu'on n'avait pas le choix.
J'ai commencé avec 5 litres et j'ai fini avec 1 litre.
Mais oui. Et on avait le même résultat, ça marchait bien.
On construit des bacs à sable, quoi. C'est-à-dire qu'on enlève toute la matière organique des sols à force d'intervention, de travail physique et de chimie qui va détruire les micro-organismes aussi. On va se retrouver avec une diminution des taux de matière organique et un support inerte. Le sol devient du hors-sol, en fait. Voilà. Le sol, c'est censé être un complexe vivant avec des équilibres, avec tout un tas de vers de terre, de champignons et d'insectes qui vivent là-dedans, qui participent à la fertilité des sols.
Ce qu'on constate, c'est qu'on a une baisse de la biodiversité, parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les pesticides, ils sont associés tout un système, en fait. Les pesticides, on ne les fait pas dans une ferme avec plein de bocages, avec plein de zones humides. Ils sont associés à des systèmes agricoles intensifs. De destruction du bocage, de destruction des... Donc en fait, on voit un appauvrissement de la biodiversité. Un des impacts les plus connus quand même de pesticides, qui est bien connu, c'est les nicotinoïdes, qui ont des grands impacts bien connus sur les insectes. Et un autre impact connu, c'est les maladies professionnelles, tous les utilisateurs de pesticides, donc toutes les maladies, les lymphomes, tous les Parkinson pour les paysans. Donc ça, c'est aujourd'hui reconnu, c'est des conséquences reconnues de ces pesticides-là. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne voit pas parce que c'est multifactoriel. Il y a les pesticides, mais il y a aussi toutes les pratiques qui vont avec.
Eau et Rivière a publié le 6 avril un article sur le nouveau rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'agence présente les résultats de sa campagne nationale de mesure des polluants émergents dans l'eau, destinée à la consommation humaine. On peut notamment y lire que 77 pesticides sur 157 recherchés ont été détectés au moins une fois dans les eaux traitées.
Ce qu'on recherche souvent, c'est les pesticides qu'on utilise. Donc, par exemple, en Bretagne, on va rechercher tous les pesticides herbicides qu'on met avant le maïs, ce genre de pesticides-là. Et aussi, dans les zones légumières, on va rechercher tous les pesticides qu'on utilise pour les cultures de légumes intensives. Donc, c'est ces pesticides-là qu'on retrouve dans les cours d'eau. Et après, on va avoir différents pesticides qu'on trouve suivant leurs caractéristiques. Parce qu'il y a des pesticides qui ont des caractéristiques très hydrophiles, donc on va retrouver facilement dans le cours d'eau, comme par exemple le pesticide qui était évoqué par l'ANSES, j'ai plus son nom en tête. Et aussi, sinon, par exemple, on en a beaucoup parlé récemment, donc par exemple le glyphosate, qu'on retrouve beaucoup, qui est un pesticide très hydrophile. Mais il y a des pesticides qu'on retrouve aussi beaucoup, qui sont eux, par contre, très sensibles à l'air, et qui vont s'évaporer très vite dans l'air et aller sur des centaines, voire des dizaines de kilomètres, s'épandre dans les habitations autour de l'épandage. Et donc ça, c'est différent. Chaque pesticide a des caractéristiques différentes. Donc il y a des pesticides qu'on va retrouver dans les sols, des pesticides qu'on va retrouver plutôt dans l'eau et des pesticides qu'on va retrouver plutôt dans l'air. Et c'est pas forcément les mêmes.
Aujourd'hui, on a un vrai enjeu de reconstruire ce monde vivant-là. Hein, et on a des... C'est long, ça prend du temps. Il y a des études qui montrent que repasser un sol en agriculture bio avec les techniques agronomiques actuelles, au bout de 20 ans, on arrive à des rendements quasiment équivalents de ce que fait le chimique, quoi. Mais il faut 20 ans de reconstruction et d'apport de matière organique pour reconstituer tout ça. Voilà, globalement, ce qu'on peut en dire.
Dès qu'on arrête de rejeter, on a tout de suite une amélioration, notamment sur la question des pesticides ou des nitrates, la concentration. Il y a des concentrations fortes qui font baisser rapidement. On a vu quand on a commencé à mettre quelques règles autour des nitrates dans les années 2008, on a vu des baisses de concentration de nitrates assez rapidement. Donc il y a des effets sur le court terme qui sont visibles et il y a des effets qui seront visibles sur le plus long terme. Par exemple, sur la restauration des zones humides, la restauration du bocage. Le bocage, il faut plusieurs années pour qu'il pousse, donc il faut un peu de temps avant de voir les résultats. D'ici 10-15 ans, c'est bon. En fait, en 10-15 ans, on peut faire la transition et avoir les résultats et de quoi nourrir la planète. Par contre, on ne se nourrira pas pareil. On mangera moins de viande, on mangera plus local aussi, ça fait partie des choses. Oui, en effet, il y a une responsabilité du monde paysan, mais il y a aussi une responsabilité du citoyen dans ce qu'il mange. Par contre, ce qu'ils mangent, il faudrait qu'aujourd'hui, peut-être, notre alimentation, ça coûte pas 30 centimes d'acheter du porc industriel. Ce serait plutôt l'inverse, que l'agriculture qui préserve notre environnement, elle soit moins chère que l'agriculture qui la détruit.
Et cette agriculture ne détruit pas que l'environnement, elle touche aussi l'état de santé de nombreuses personnes liées de près ou de loin au modèle intensif. C'est le sujet sur lequel nous nous pencherons dans le prochain épisode.